Loué et remercié soit le Seigneur. La pensée m'est venue en chantant que toutes ces choses sont là. Ces choses que nous savons et que nous croyons. Ça, nous le savons et nous le croyons. Mais la question est de savoir si nous savons comment les utiliser. Comment tout cela peut avoir un effet sur nous, doit avoir un effet, doit devenir apparent, doit devenir réalité. La rédemption, la totale délivrance est là. Mais la totale délivrance vécue, expérimentée personnellement, est une autre chose qu'une totale délivrance que l'on croit vraie. L'expérience de la guérison est différente de la simple connaissance de la guérison, de la simple connaissance d'avoir été guéri par ses blessures. La différence entre connaître le divin et le vivre et l'expérimenter personnellement doit se rapprocher. La différence ne doit plus être aussi grande. Elle doit être comme dirait un imprimeur, passer exactement. Et que Dieu puisse nous accorder sa grâce. Encore cet après-midi, nous vous souhaitons tous les bienvenus. Nous souhaitons la paix de Dieu et la bénédiction de Dieu de tout notre cœur. Ce soir, c'est maintenant la question. Nous pourrions montrer le film de Frère Branham. Je veux bien sûr aussi la savoir, est-ce qu'il y en a parmi nous qui ne l'ont jamais vu? Avons-nous parmi nous des frères et des sœurs, des personnes qui n'ont jamais vu le film de Frère Branham? Oui, oui, il y en a, il y en a. Il y en a quand on regarde de la droite à la gauche, entre 15 et 20 personnes. J'ai vu ce film, je pourrais l'estimer, plus de 70 fois, plus de 70 fois. Parce que, à l'époque, je l'ai pris avec moi de ville en ville, de pays en pays. Il y avait eu une époque comme ça, donc où j'avais pris ce film dans les voyages, je l'ai montré, et donc je l'ai vu très souvent. Mais je peux le dire, je le vois à chaque fois volontiers, car ça me rappelle ce que Dieu a fait. Les bonnes choses, on peut souvent les prendre, et cela, ici, est le cas. Si cela ne vous dérange pas, donc ce soir, nous verrons le film de Frère Branham. Cela me permet de me détendre un peu. Mais il faut savoir gérer le temps. Nous devons savoir gérer le temps car tout sera bientôt terminé. Bientôt le temps sera terminé. Et alors nous aurons le 1er janvier 1988. Il arrive sûrement. Ah, pardon, 87. Je pensais 88. Ah, vous pouvez supposer que j'ai dit cela exprès. Les pensées sont libres quand elles sont bonnes. Les pensées de paix, elles sont libres. Mais je dois vous avouer ouvertement que dans mon cœur, j'accepte encore d'une certaine manière l'année 87 calmement, mais que je m'attends à une intervention de Dieu comme... Comment et quand, je ne le sais pas. Mais je ne veux plus expliquer. Nous allons avec le Seigneur, simplement, dans le futur, et aussi les choses à venir, un jour, deviendront alors présentes, car ce qui était, beaucoup de choses qui étaient futures sont devenues présentes par leur accomplissement. Et c'est ainsi que cela sera aussi dans le futur. Un jour, nous regarderons en arrière et pourrons dire ce que nous avions attendu de tout notre cœur avec plein désir s'est accompli et nous pourrons dire aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous nos yeux. Nous sommes convaincus que Dieu fait ce qu'il dit, tient sa parole et qu'il fera tout au temps convenable. Donc, nous avons ce soir donc le film. Et demain soir, nous avons donc le baptême d'eau et le souper. Et donc, mercredi, nous aurons donc seulement l'agape le soir. Mais en ces deux jours, pendant ces deux jours, nous aurons le matin et l'après-midi, nous aurons encore des heures ici, dans la présence de Dieu, devant la face de Dieu, pour nous approfondir dans les Saintes Écritures, avec cette demande à Dieu qu'il puisse en nous tous confirmer sa parole, la vivifier, la rendre vivante, et que nous devenions une partie de cette parole, une partie de son plan, une partie de son royaume, que dans ces jours, nous soyons une partie de l'histoire du salut et que nous passions dans le domaine prophétique, ce domaine que nous attendons tous, et que ces jours-là puissent contribuer à ce que nous ayons tous, à ce qu'à tous, il nous soit accordé une meilleure compréhension des Saintes Écritures. Levons-nous encore pour la prière. Père céleste, de tout notre cœur, de tout mon cœur, je te remercie pour le privilège que nous avons de vivre dans ce temps, reconnaître la diversité de ta parole et de voir ton plan avec ton peuple. Bien-aimé Seigneur, nous sommes rassemblés devant ta face pour écouter personne d'autre et voir personne d'autre que toi et toi seul. Parle avec nous. Rends-nous calmes et tranquilles devant ta face. Ôte toute la résistance intérieure. Ôte toutes les incompréhensions. Ôte toute la tristesse. Ôte tout ce qui t'est un obstacle. Que tous les esprits se retirent et que seul ton esprit prenne le contrôle et la conduite de toutes choses et agisse et soit parmi nous. Bénis avec nous tout ton peuple dans l'adoration à toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant. Nous te disons, nous t'exprimons la reconnaissance pour toutes choses dans le Saint-Nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons des comparaisons de l'Ancien. Nous avons déjà tiré des comparaisons dans l'Ancien et le Nouveau Testament et nous continuerons à le faire. Nous savons que Dieu a donné des promesses dans sa parole qu'il accomplit ensuite comme vrai. Et en cela, notre foi est fondée. Dans ces choses, notre foi est fondée. Nous pouvons entièrement faire confiance à Dieu et à sa parole. Nous pouvons croire à Dieu. Dieu est digne de foi. Dieu est digne de foi de sa bouche. Jamais un mensonge est sorti. Il tient ce qu'il promet. Il a même laissé dire que si nous sommes infidèles, il reste malgré tout fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Aujourd'hui, nous voulons tirer encore plusieurs comparaisons dans la parole de Dieu. Nous commençons avec cela en lisant l'Acte des Apôtres, chapitre 16. C'est, n'est-ce pas, cette famille connue du geôlier de Philippi. Nous lisons ici le verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 16. Le chapitre 16, verset 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » D'autres traductions disent, « Et tu seras sauvé, toi et tu seras béatifié, béni, toi et ta famille. » Et il y a des croyants qui ont expérimenté cela et qui expérimentent cela encore aujourd'hui, que tel qu'il est écrit, tel qu'il a été dit ici, ils sont sauvés avec toute leur famille. Et pour cela, nous sommes très reconnaissants à Dieu du fond de notre cœur. Mais comment classer ceux pour qui, tout d'abord, si l'on se base sur la date d'aujourd'hui, la question ne se présente pas encore comme si quelqu'un croit, mais que toute sa maison ne croit pas. Cette personne a été bénie, mais toute sa maison n'a pas été bénie. Je veux dire, à la date d'aujourd'hui. Comment pouvons-nous alors classer cela? Très rapidement, cela peut arriver que alors nous entrons en jugement avec nous-mêmes et que le diable, avec toute force, se jette sur nous et nous dit, mais c'est parce que tu ne crois pas vraiment, ta conversion là est-elle authentique? Alors, suis ces différentes, arrivent ces différentes pensées, ces choses l'une après l'autre et viennent sur nous de fortes pensées. Alors nous nous posons la question pour finir, est-ce que vraiment nous avons cru? Ou bien alors, est-ce que nous prétendons croire si notre famille n'est pas encore sauvée? Mais si nous regardons dans les Écritures et que nous voyons que ici aussi, nous voyons dans les Écritures qu'ici aussi, cela peut être complètement et fondamentalement différent d'une maison à l'autre et d'un cas à l'autre. Alors, ce n'est pas censé être un anti-douleur maintenant que je vous donne, mais juste pour clarifier cela, pour que nous ne fassions pas de naufrage dans notre foi, mais que nous puissions continuer à nous attacher à cela, à croire que le Seigneur tient sa parole et que encore aujourd'hui, des croyants sont sauvés avec toute leur maison, avec toute leur famille, peuvent être sauvés avec toute leur famille. Et ça, je l'ai lu dans Actes 7, verset 31, et ça reste valable. Maintenant, allons dans 1 Corinthiens, le chapitre 7. 1 Corinthiens, chapitre 7. Ici, il est écrit au verset 16. Je vais même plus lire les versets avant, le verset 16. Peut-être que je vais les lire, si, pour que vous puissiez aussi voir comment est-ce que les choses peuvent être proches l'une de l'autre. Et laissez-moi commencer à partir du verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 14. Car le mari incroyant est consacré et sanctifié par sa femme croyante. Et la femme incroyante est consacrée et sanctifiée par le frère. Sinon, vos enfants auraient, eux aussi seraient impurs et pourtant, ils sont en réalité saint. Si toutefois, le verset 15, la partie incrédule désire profondément la séparation, elle peut se séparer. Dans de tels cas, le frère ou la sœur ne sont pas liés servilement à un mariage. Au contraire, Dieu nous a appelés à une vie dans la paix. Restons d'abord ici un moment. Auparavant, il est dit clairement que le partenaire incroyant est consacré et sanctifié par la partie croyante. Et directement après, de ce partenaire incrédule qui est consacré et sanctifié selon le verset 14, il est dit ensuite que si la partie incrédule désire profondément la séparation, elle peut se séparer. Dans de tels cas, le frère ou la sœur ne sont pas liés servilement à un mariage. Qu'est-ce que nous remarquons ici? C'est que dans une famille, cela s'applique et dans une autre famille, cela ne s'applique pas. Dans une famille, c'est comme ça et dans une autre famille, c'est différent. Et les deux cas sont donnés si près l'un de l'autre et l'un de l'autre dans les Écritures, sont redonnés ainsi dans les Écritures pour que nous sachions et ne pensions pas toujours que la même chose s'applique partout. Ici, l'un s'applique, ici l'autre. Dieu a différents chemins avec chacun individuellement. Je continue à lire. C'est-à-dire, le verset 16, 1 Corinthiens 7, verset 16. Car comment peux-tu, ô femme, savoir si tu sauveras vraiment ton mari? Ou comment peux-tu, ô mari, savoir si tu vas vraiment sauver ta femme? Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, au verset 31, nous avons lu « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta famille, vous serez sauvés. » Point. Finish. Et ici, qu'est-ce que nous lisons? Comment peux-tu, ô femme, savoir si tu sauveras vraiment ton mari? Mais je croyais qu'ils étaient tous sauvés. Selon Actes Apôtres 16, verset 31. Hein? Je pense qu'ils sont déjà tous bénis dans la famille, tous sauvés parce que quelqu'un croit. Vous voyez que en tous les cas, nous devons lire toute la Bible. Pas seulement un seul verset biblique, le ressortir, le souligner et ensuite en brûler. Mais vraiment, vraiment, dans l'équilibre, lire toute la parole de Dieu et ensuite la prêcher pour qu'aucun homme soit confus. Personne, de toute manière, n'a besoin d'être confus qui met sa confiance dans le Seigneur. On a seulement besoin, il est seulement nécessaire que tous, nous puissions nous-mêmes nous classer dans l'ordre biblique et classer dans l'ordre biblique ce qui se passe avec nous et nous reposer en Dieu. Comprenez-vous cela? Au moment où cela n'arrive pas, au moment où nous ne le faisons pas, nous sommes donc sans repos et sans paix. Et avec cela, n'ayant pas de repos, nous n'avons pas non plus de paix. Mais nous avons la paix avec Dieu. Et nous savons qu'il a, de toute manière, avec chacun qui est croyant, un chemin particulier. Lisons encore dans 1 Timothée chapitre 2. Je voudrais vous prescrire ou vous administrer volontairement des médicaments puissants pour que nous guérissions. 1 Timothée chapitre 2. Ici, il est écrit au verset 3 et 4, la chose suivante. 1 Timothée 2, verset 3. C'est ainsi qu'il est louable et agréable aux yeux de Dieu, notre Seigneur Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et nous prions dans le Notre Père, c'est ainsi que cela nous a été ordonné, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la volonté de Dieu, c'est ainsi que nous la lisons ici, il veut que tous les hommes soient sauvés et que tous soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la volonté de Dieu exprimée ici. Mais ce ne sont pas tous qui se laissent sauver. Ce ne sont pas tous qui se laissent secourir. Ce ne sont pas tous qui acceptent la vérité. C'est la volonté de Dieu, c'est vrai. Mais Dieu ne peut imposer sa volonté à personne, à quiconque. Il peut nous la représenter sous nos yeux, nous la montrer. Ensuite, il attend que nous puissions suivre, répondre, et que nous puissions nous laisser introduire dans sa volonté et de tout notre cœur pouvoir dire, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, après que tu nous l'aies montré. Donc, ici nous lisons que c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et viennent et parviennent tous à la connaissance de la vérité. À cela, lisons maintenant dans l'évangile de Jean, le chapitre 6, versets 64 et 65. L'évangile de Jean, le chapitre 6, verset 64 et le verset 65. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le trahirait. Et maintenant suit, maintenant arrive le verset. Il poursuivit ensuite. C'est pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas accordé par le Père. Une autre traduction dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Le tir, on doit être tiré, on doit être attiré pour venir, pour pouvoir venir. Mais c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Mais alors, cela dépend quand même que Dieu attire, que Dieu tire, que Dieu produise dans le cœur de cette personne, dans le cœur de la personne. Cela produit cela dans le cœur de la personne et qu'elle soit tirée. Alors, quelqu'un peut s'excuser et dire, bon alors, pourquoi m'inquiéter? Jusqu'à maintenant, Dieu ne m'a pas tiré, ne m'a pas attiré, ça veut dire qu'il ne me veut pas. Non, c'est faux. Non, nous devons reconnaître que sous l'écoute de la parole de Dieu, c'est là que Dieu commence à nous attirer. Déjà, le fait de venir pour écouter la parole de Dieu signifie que tu t'es engagé avec Dieu. Je voudrais donner ce conseil à tous de ne pas venir dans une réunion où la parole de Dieu est prêchée s'ils ne veulent pas marcher vraiment avec Dieu. Car c'est dangereux de venir dans une réunion où la parole de Dieu est prêchée. Parce que c'est là que Dieu commence à agir. Et c'est là qu'il commence à nous attirer dans le profond de notre cœur. À nous tirer. Celui qui ne veut pas être sauvé, il n'a pas le droit de venir à une réunion. Mais celui qui veut être sauvé, qu'il puisse venir. Celui qui veut être béni, qu'il puisse venir. Qu'il puisse ensuite être tiré par Dieu sous le coup de la parole de Dieu. Être attiré et tiré par Dieu. Alors ça accomplira tous ceux que le Père attire, que le Père tire, viennent à moi. Et tous ceux qui viennent à moi, ou bien alors oui, chacun qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Donc, l'offre de grâce de Dieu pour tous. Mais ce ne sont pas tous qui l'acceptent. Elle est là pour tous. Mais tous ceux qui la reçoivent, c'est ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, le premier chapitre. Tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur donne le pouvoir ensuite de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire parce qu'ils croient en son nom. C'est ainsi que Dieu commence à nous tirer dans le cœur, dans le cœur d'un homme. C'est comme ça que Dieu commence à l'attirer. Alors nous reconnaissons que nous avons été déterminés à être sauvés. Nous lisons une autre parole dans l'évangile de Marc, le chapitre 12. Marc, le chapitre 12, à partir du verset 29 jusqu'au verset 31. Marc, chapitre 12. Verset 29 jusqu'au verset 31. Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus élevé que ces deux-là. Vous ne savez peut-être pas pourquoi est-ce que j'ai lu cette parole. Mais nous passons maintenant dans un autre domaine. Ici, il nous est dit que nous devons de tout notre cœur et de toute notre âme et de toutes nos pensées, de toutes nos forces, de tout ce qui est en nous, avec tout ce qui est en nous, aimer Dieu et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire le second commandement qui lui est semblable. Maintenant, je voudrais lire dans Luc. Et maintenant, s'il vous plaît, asseyez-vous bien. Tenez-vous bien dans votre chaise. Tenez-vous bien maintenant. Pour ne pas tomber. Dans Luc, chapitre 14, ici nous lisons dès le verset 25. Rappelez-vous, s'il vous plaît, de cette parole de Marc que nous venons de lire au chapitre 12. Aimez ton prochain comme toi-même, etc. Donc, Luc 14, verset 25 maintenant. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors, mais qu'est-ce que c'est ça? Nous venons de lire concernant l'amour d'aimer notre prochain. Tu aimeras Dieu, premièrement, ton Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et ensuite, ton prochain, comme toi-même. On pourrait encore lire d'autres paroles. Le premier commandement, avec promesse, s'intitule « Honore ton père et ta mère pour que tu ailles bien et que tu vives longtemps sur terre. » Mais ensuite, ici, le Seigneur semble renverser tout sur la tête et dit et parle de haine. Parle de haine. Mais cela ne m'arrange pas du tout. Moi, je veux aimer. C'est pour ça que je suis là, pour aimer. Mais ici, le Seigneur m'ordonne, ou bien alors me demande, peut-être aussi te demande à toi, peut-être nous demande à nous tous, je ne sais pas combien se laissent toucher par cette parole, ou bien combien se sentent concernés par cette parole, ou bien sont concernés. Ici, il est écrit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Mais nous voulons tous être disciples, Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Comment devons-nous accorder tout cela? Qu'est-ce que nous devons faire avec cette parole? Regardez le contexte. Nous avons, ce matin, déjà eu à parler de ça. Le Seigneur disait, « Je suis venu dans ce monde pour une séparation. » Pour que ceux qui voient deviennent aveugles et que ceux qui sont aveugles voient. Et ensuite, les scribes et pharisiens ont demandé, mais est-ce qu'il veut parler de nous? Alors, le Seigneur leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais parce que vous prétendez voir, c'est peut-être que vos péchés demeurent. De la lettre, ils connaissaient la parole. Mais ils n'étaient pas prêts à suivre le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi, avec moi, avec nous tous, quand Dieu nous appelle, nous choisit et que sa visitation de grâce vient dans notre vie? La même chose s'est passée avec Abraham. Et c'est ce qui doit se passer avec nous, avec Abraham, qui était de l'autre côté du fleuve Euphrate à Ur-Chaldée et servait à Ur-Chaldée et avait servi d'autres dieux, de l'autre côté du fleuve, l'Euphrate. Il lui a été dit, « Sors, abandonne tout et va dans le pays que je te montrerai. » Remarquons-nous cela, que suivre Jésus ne peut pas impliquer de compromis. Si nous sommes pour le Seigneur, nous devons obligatoirement nous détacher de tous ceux qui ne veulent pas suivre le même chemin du Seigneur avec nous. C'est seulement comme ça que nous avons la possibilité. Vous savez, le mot « haïr » me rappelle à cette parole dans l'Ancien Testament où Dieu dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Ce mot « haïr » veut dire en fait que l'autre, ici, dans ce contexte, l'autre est accepté, l'autre est rejeté. Mais ici, nous voyons que suivre Jésus ne permet pas de compromis. Si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a fait grâce et que toute ta famille ne veut pas suivre, est-ce que tu vas aussi rester pour avec eux aller en bas et périr? Ou bien alors est-ce que tu vas comprendre que le Seigneur a fait un choix dans ta vie? Et que toi qui as été appelé par le Seigneur, tu dois le mettre à la première place. Et si cela te coûte tout, mais la chose la plus précieuse te demeure, c'est-à-dire le Seigneur et ce qu'il a fait pour toi. Et si toi tu as le courage, même si tu dois rester seul, de faire un commencement authentique avec Dieu, pour que ceux qui sont restés en arrière reçoivent aussi la chance de suivre et de suivre le Seigneur. Mais si tu restes seul, avec eux, en sachant dans ton cœur ce que le Seigneur a fait pour toi, tu te rends responsable. Parce que par cela, les autres de ta famille n'auront pas l'occasion de réfléchir et de dire, mais ah, peut-être que nous devrions ensuite suivre le Seigneur. Vous savez, parfois, il y a un peu de diplomatie, un peu de capacité de comprendre, de ressentir les sentiments ou de se mettre à la place d'une autre personne. Tout ça sont des belles paroles. Un peu de considération, et sûrement qu'elles ont leur justification dans le monde et leur place. Mais ici, quand il s'agit des choses divines, quand il s'agit de la vie éternelle, quand il s'agit du salut, alors là, je vous demande, si vous voulez expérimenter Dieu, ne faites aucun compromis. Mais prenez votre décision, et quelle soit la décision que Dieu a prise pour vous. Et le Seigneur va ensuite attirer alors tous ceux qui un jour respecteront cette décision. Et soudain, ce qui, sur le moment, se révélait être une séparation dans la famille, sera à nouveau une réunification, une unité comme une union dans le Christ. Mais il est nécessaire, au moment de prendre la décision correcte. Cela continue encore ici. Au verset 27, il est écrit dans Luc 14. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. De quelle croix il s'agit ici dans ce contexte? L'une des croix les plus lourdes qui consiste à ce que si quelqu'un dans une famille, pour le moment, à suivre le Seigneur seul et que tous les autres restent derrière. Il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on peut supporter. Une chose mieux que l'autre, mais de laisser sa propre famille derrière, de perdre les siens, ça c'est une croix difficile, lourde, une croix qui est lourde, qui fait mal. Mais ici, le Seigneur nous l'ordonne. Celui quiconque ne porte pas sa croix. Tout ça, ce sont des fardeaux que nous avons apportés. Et ne me suis pas, ne peut pas être mon disciple. Nous remarquons alors, comment est-ce que les situations peuvent être différentes. Et je suis tellement reconnaissant à Dieu qui n'a laissé de côté aucune des situations qui se sont présentées et qui pourraient exister et qu'il a pensé à tout ce qui pourrait nous arriver avec notre foi dans la famille ou où que nous soyons. Il a pensé à tout. Pourquoi? Pour nous consoler, nous réconforter et nous fortifier dans la foi. Continuons à lire dans Luc. Nous venons de lire dans Luc, pardon. Je vais lire dans Éphésiens maintenant. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Et là aussi, il est écrit une parole qui directement aurait pu être connectée à ce que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 7 tout à l'heure. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Rappelez-vous s'il vous plaît de Luc 14, verset 25. Celui qui est par son père, sa mère, sa femme, etc. Et ici nous est dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, verset 25. Alors qu'est-ce que je dois faire maintenant? Quel devoir m'est donné, en fait? Vous voyez? Ce que vise la parole de Dieu. Les deux sont vrais. Les deux contextes sont vrais et les deux ont leur place. Et si Dieu fait grâce, l'un des cas peut être remplacé par l'autre. Alors c'est la paix et la joie dans le Seigneur. Dans la famille, il y a la paix et la joie. Dans toute la famille. Alors s'accomplit à cette maison. Cette maison a reçu le salut de Dieu. Le salut peut être reçu par celui qui nous l'a apporté. Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas comment est-ce que les choses vont pour vous. Je ne peux que parler de moi. J'ai dû constater que des paroles dans certaines situations ne suffisent pas. Et que Dieu seul est capable de changer la situation et on doit lui laisser les choses entre les mains. Comment et quand est-ce qu'il interviendra? Nous savons que sa volonté en toutes choses sera faite. Nous avons la parole de 1 Corinthiens 7, verset 15 que nous venons d'observer. Que sais-tu, frère, ou bien toi, sœur, si tu ne gagnerais pas ton prochain? La réponse est très facile. Si les deux sont tirés par Dieu, attirés par lui, et on reçoit la grâce de Dieu et suivent le Seigneur, alors il n'y a plus de problème, de difficulté. Alors il y a le pardon, il y a la grâce, il y a le salut, il y a de la considération pour l'un pour l'autre, il y a tout pour là, il y a tout là, il y a la compréhension, il y a tout. Mais s'il n'y a pas toutes ces choses, si ce n'est pas le cas, nous devons attendre jusqu'à ce que Dieu apporte un changement. Dans Éphésiens chapitre 6 maintenant, il est écrit, Éphésiens chapitre 6, j'avais déjà là anticipé tout à l'heure sur le sujet. Ici il est écrit, Éphésiens chapitre 6 verset 1, « Vous, enfants, soyez obéissants à vos parents dans le Seigneur, car cela est dans l'ordre des choses. » Une formulation très belle, n'est-ce pas? Un tel ordre, nous le souhaitons tous. Pour que cette parole s'accomplisse, vous, enfants, soyez obéissants à vos parents dans le Seigneur. Donc, ce sont des enfants croyants. Et alors, il leur est demandé d'avoir aussi la crainte de Dieu pour pouvoir être obéissants aux parents, sinon ce ne sera pas possible sans la crainte de Dieu dans le cœur. Vous, enfants, soyez obéissants à vos parents dans le Seigneur, car cela est dans l'ordre des choses. Oui, ça, je voudrais le dire aussi. Ça, c'est vraiment en ordre, dans l'ordre des choses. Si cela s'accomplit ainsi, la plupart de nous, n'est-ce pas, ont sûrement vécu de telles années. Et nous regardons tous à ce temps, bien sûr, volontiers en arrière. Et là, je pense à un frère à l'époque qui était jeune, alors que la question était venue dans l'église qui pourrait être ancien d'une église, d'une assemblée. Et alors, il y a quelqu'un qui est venu très agité et a dit oui, mais n'est-ce pas, c'est écrit, hein, que les voici comment est-ce que les enfants d'un ancien doivent être. Ils doivent être ainsi. On lui a dit oui, c'est écrit. Et cela reste aussi écrit et valable. Mais autrefois, j'ai dit à ce frère qui était à l'époque très jeune, je lui ai dit, mais toi, attends. Il n'était pas encore marié. Toi, attends jusqu'à que, quand tu te marias, tes enfants soient grands et adultes. Comment les enfants des frères qui ont été établis comme anciens? Et alors, il a dit à haute voix, moi, je reste attaché à la parole. Bon. Et quand le temps a pris son cours, n'est-ce pas? Ça fait très longtemps en arrière. Alors cela aussi s'est révélé ce qui s'était passé avec, s'était révélé avec Samuel. Et Samuel était un prophète puissant. Hein? Le premier devoir que le Seigneur lui avait ordonné d'exécuter était « Va à Élie et dis-lui de mettre sa maison en ordre parce que ses fils ne marchent pas dans les voies de Dieu. » C'était un devoir difficile, hein? Il n'avait pas le choix. Et quand ce bien-aimé Samuel, qui autrefois était très jeune, et avait écouté la voix de l'Éternel, et avait exécuté son ordre, quand ce bien-aimé Samuel, lui aussi avait à son tour des fils adultes, et lui-même était très âgé, alors les anciens d'Israël sont venus à lui, et lui ont dit, « Samuel, tes fils ne marchent pas dans tes voies. Établis-nous un roi. » Quel couteau cela a dû être dans son cœur quand tout était jeune, et bien tout était obéissant et n'était même pas marié et ne connaissait rien des problèmes qui peuvent arriver, etc. Et là, on peut tout de suite dire quelque chose rapidement, hein. Mais quand plus tard, par le développement du temps, les choses changent pour nous. Et alors, là, nous devons aussi en finir. Et Dieu nous accorde la force pour en finir, pour que nous puissions surmonter ces choses. Et je vais vous dire d'où moi je puise ma force. Je la puise de la parole de Dieu. Pour que moi aussi, dans ma situation et toi dans ta situation, nous recevons toujours de la consolation par la parole. Et si quelqu'un vient à vous et dans la misère dans laquelle vous vous trouvez déjà, vient encore vous frapper, vous affliger, vous condamner, vous accuser, un tel homme, vous pouvez lui montrer la porte, car il n'est sûrement pas venu, envoyé par le Seigneur. Quelqu'un qui est envoyé par Dieu, vous savez ce qu'il va faire d'abord quand il va arriver? La première chose, avant même de fouler le seuil, ou bien en foulant le seuil, la porte de la maison, il dira que la paix soit avec cette maison. Et moi, j'aimerais compter combien de fois j'ai dit cela en entrant chez quelqu'un. Combien de fois? Quand j'entre dans une maison, je dis toujours que la paix soit dans cette maison. Vienne sur cette maison. Et si là, il y a des enfants de paix, alors cette paix de Dieu reste avec eux. Mais si quelqu'un vient, qui lui-même n'a pas de paix, et est conduit par et est excité, agité, alors qu'est-ce qui arrive quand il arrive et vient visiter une maison? Elle a une famille, il n'y a que il apporte du malheur. Vous voyez, les vrais enfants de Dieu sont des gens qui procurent la paix. Ce sont des hommes que Dieu peut bénir et utiliser. Mais venons ici à un autre verset biblique. Et nous le trouvons dans 2 Timothée chapitre 3. Dans 2 Timothée chapitre 3. Là, il nous a dit quelque chose sur la fin des temps dans laquelle nous vivons, une fin des temps. Ici, dans Éphésiens 6, nous avons lu que les enfants doivent aimer leurs parents et obéir à leurs parents dans le Seigneur. Maintenant, regardez ce qui est écrit ici. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 2. 2 Timothée, chapitre 3, verset 2. Car alors les hommes seront égoïstes et avides d'argent, vantards et hautains, injurieux, désobéissants aux parents, ingrats, impies, sans amour, ni fidélité, calomniateurs, intempérants, cruels, etc. Aussi là, tout ce qui est bon. Celui qui ne lit pas le premier verset, il n'a pas compris que cette expression-là se réfère au dernier jour. Car au premier verset, il est écrit, « Mais tu sauras ceci, qu'il y aura des temps mauvais dans les derniers jours. » Mais nous lisons, n'est-ce pas, dans ces derniers jours, oui ou non? Oui. Et les jours qui ne nous plaisent pas sont venus sur nous. Mais ce sont les derniers jours. Et dans ces derniers jours, ce n'est pas seulement l'ordre divin qui est en jeu, mais aussi l'ordre des hommes a été renversé sur la tête. Et Salomon, autrefois, a déjà dit de son temps, ne demande pas pourquoi est-ce que les temps d'autrefois étaient mieux. Parce que ce n'est pas la sagesse qui t'inspire cette question. Souvent, officiellement, je l'ai dit et je n'ai pas honte de le dire. J'ai lavé les pieds de mon papa qui avait difficile à travailler dans l'agriculture quand il revenait tard et fatigué le soir. Et j'ai pris un seau et je lui ai, à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, je lui lavais les pieds quand il revenait du travail. Cela ne m'a pas dérangé, c'était normal pour moi. J'ai aimé du fond de mon cœur mon papa et cela appartenait à ma vie. Mais quand je regarde le temps d'aujourd'hui, alors je dois dire, oh mon Dieu, toi, n'est-ce pas, ne demande pas pourquoi est-ce que les temps d'autrefois étaient mieux que ceux d'aujourd'hui. Et si je fais un pas de plus, j'avais eu le privilège de baptiser mon père et ma mère bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était des années auxquelles je peux regarder en arrière, comme les choses allaient pour moi, comme Job à l'époque où le Seigneur l'entourait et que rien lui arrivait, il était béni. Il y en a même qui ont été jaloux sûrement. Mais alors si des jours et des temps arrivent où les choses sont différentes pour moi, ne me déplorez pas. S'il vous plaît, priez simplement pour moi et dites: Seigneur, le Seigneur sait ce qu'il fait dans sa vie et la fin sera plus glorieuse. Et ensemble, nous louons et glorifierons le Seigneur. Et que nous devons nous retenir aux choses qui sont passagères. Nous nous attachons à ce qui est éternel. Et nous devons prendre une décision. Ce qui passe, ce qui est passager, nous retient. Mais ce qui reste éternellement, nous tient ferme et nous fait entrer dans l'éternité. Donc, la décision est déjà prise. Nous avons été saisis par Christ et nous ne pouvons rien faire d'autre. Nous allons à sa rencontre avec empressement. Nous le suivons et je crois que si Dieu nous a donné des hommes qui sont, n'est-ce pas, notre propre chair et sang et une partie de nous et qui sont déterminés et qui sont déterminés à prendre part et qui sont déterminés à prendre part dans les mains, alors le temps arrivera où les choses changeront comme ça a eu lieu avec Job, et alors subitement la joie et la paix sera dans toute la famille. Mais entre temps, je ne veux pas malgré tout tourner le dos au Seigneur parce que ma famille n'est pas encore croyante. Non, ça c'était l'histoire de Job. Le Satan lui a dit: mais si, n'est-ce pas, tu me laisses me jeter sur lui, tu verras qu'il ne te servira plus. Et le Seigneur a pris cela au sérieux. Il lui a dit: bon, d'accord Satan, si tu penses qu'il ne me servira plus quand les choses iront mal pour lui, alors le voilà pour toi, prends-le. Mais ne touche pas à sa vie, à son âme. Il a vraiment touché tout, de la tête aux pieds. Sa maison, c'est bien tout. Même, et la femme, par la femme, il est passé par la femme, il lui a dit: renie Dieu et meurt. Et qu'est-ce que Job a dit? Il était assis sur la chambre, extérieurement encore plein de douleur, avec des ulcères de la tête aux pieds. Et alors encore, ses coups de ses amis, il y a différentes sortes d'amis, hein. Et il y en a qui ont un don spécial. Ils ont la main gauche libre et la main droite avec un couteau caché. Et quand ils t'ont embrassé avec le bras gauche, alors la main droite avance et ils te donnent un coup de couteau. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin d'hommes. Et ça, je veux le dire clairement. Ça n'a pas d'importance. Dans quel état, dans quelle situation tu te trouves, bien-aimés frères et bien-aimés sœurs, si nous sommes enfants de Dieu, alors nous ressentons mutuellement les douleurs les unes des autres ici et nous marchons ensemble sur le chemin de Dieu. Nous ne nous corrigeons pas les uns les autres. Nous n'allons pas dans les maisons pour distribuer des ordonnances et dire: écoute, dans ton problème, voilà comment tu dois faire les choses, tu dois faire comme ça. Et ça là, non, nous-mêmes, nous avons besoin d'une ordonnance. Et si nous l'avions, n'est-ce pas, nous serions aidés déjà, secourus, nous-mêmes. Mais nous avons la promesse qu'il y a encore de la baume en Gilead. Le médecin est encore là. Il peut guérir, il peut penser, il peut guérir tous. Il peut faire du bien à tous. Pourquoi est-ce que nous lisons toutes ces différentes écritures? Ces versets pour nous montrer que nous pouvons nous trouver dans différentes situations et personne dans sa situation a besoin de se décourager. Croyez-moi, aujourd'hui, personne n'a besoin de se décourager dans sa situation, qu'elle soit difficile. Vous ressentez dans votre cœur que Dieu vous a appelé à sortir. Vous n'êtes pas venu de vous-même au Seigneur. Vous avez été tiré par le Seigneur, par Dieu, et vous êtes maintenant ici. Et maintenant, vous avez mis le Seigneur dans votre vie à la première place. Vous avez dans votre vie reçu la parole de la vérité en lumière. et vous avez supporté beaucoup de choses. Et lui, vous pensez qu'il va vous laisser dans vos problèmes? Il a vu tout et il voit tout et il écoute tout. Il a tout vu, il a tout écouté et il veille sur nous et sur sa parole qui est dans notre cœur. Pour autant convenable, faire la chose adéquate. C'est pas toi et c'est pas moi qui allons apporter un changement. Mais le Dieu Tout-Puissant, dont nous portons les promesses dans son cœur, lui à qui appartient tout pouvoir sur la terre comme au ciel, il a déjà frayé le chemin pour ton problème. Il a déjà aplani le chemin. Nous avons seulement besoin d'attendre jusqu'à que nous puissions y marcher. Entre-temps, avant que cela arrive, nous voulons faire confiance au Seigneur et cela entièrement. Malgré tout, comme homme, n'est-ce pas, rapidement avec nous et avec les autres et encore même avec Dieu, nous allons peut-être nous plaindre et dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce que cela doit m'arriver? Pourquoi? Parfois, il y en a qui recevront leur réponse seulement dans la gloire. Que nous recevions la réponse ou pas, nous voulons servir le Seigneur. Dans la foi, lui faire confiance, le suivre et tout le reste. Si cela doit être ainsi, que toute la famille n'est pas encore croyante, nous voulons malgré tout laisser tout derrière nous et nous suivre le Seigneur, même si ça fait mal. Ou alors, nous nous laissons retenir par ceux qui ne suivent pas et qui ne croient pas. Et alors, ou bien alors, nous suivons le Seigneur et alors par cela, nous leur donnons la possibilité d'être attirés par le Seigneur. Je crois que la première solution est la meilleure. Que parce que Dieu nous a tirés, nous a appelés, nous voulons suivre notre chemin en suivant le Seigneur Jésus-Christ. Et tout le reste, nous voulons le remettre à la main du Seigneur. Comme il a dit dans Isaïe 49, verset 25, il peut enlever les captifs d'un homme puissant et le butin d'un homme puissant. Et il peut rendre les grands petits. Il peut élever, il peut abaisser. Ce qui est important, c'est d'avoir pris dans notre cœur la disposition juste devant Dieu, devant Dieu, et tout le reste, le remettre entre ses mains. Vous savez que nous devons aussi faire preuve de plus de tact dans nos relations avec les autres. Malheureusement, ce sont les personnes de foi qui peuvent devenir déraisonnables ou irraisonnables le plus rapidement. Les incroyants font attention à leur conduite, qu'ils aient lu Herman Kennedy ou pas. Mais ils savent exactement comment se comporter, comment se conduire. Vous savez ce que je veux dire. Mais avec les croyants, ce n'est parfois pas le cas. Et là, nous devons faire attention à reconnaître si nous ne sommes pas motivés par une autre puissance. Par une autre puissance qui fait de nous tout sauf une bénédiction pour les autres. Mais je voudrais ici vous montrer un autre contraste frappant qui vous donnera du fil à retordre. Dans l'évangile de Matthieu, dans le sermon sur la montagne, notre Seigneur a adressé un avertissement très sérieux à nous tous, une exhortation, un rappel à l'ordre. Et ici, il dit la chose suivante. Matthieu 5, verset 21. Vous avez appris qu'il a été ordonné aux anciens, tu ne tueras pas, mais celui qui tuera sera jugé. Mais moi, je vous dis, quiconque se met même en colère contre son frère sera passible du jugement. Et quiconque dira à son frère « idiot » sera puni par le haut conseil, et quiconque lui dira « insensé » sera puni par le feu de l'enfer. Des paroles très sérieuses. Si rapidement, un croyant dit à l'autre, réellement quelque chose. Des expressions qui n'ont pas à être trouvées dans notre bouche. Car c'est écrit dans Éphésiens 4, verset 29, « Qu'une sorte de vos bouches, aucun discours grossier, vain ou indécent de vos bouches. » Éphésiens 4, verset 29, vous connaissez toute cette écriture, je n'ai pas besoin de lire, mais je veux ici tirer une comparaison. Et vous savez exactement dans votre cœur. Je ne suis pas ici comme juge. Je ne me tiens pas ici comme juge. La parole que je lis, elle est adressée à moi aussi comme à vous tous. Et elle va dans mon cœur aussi comme dans votre cœur à vous tous. Et elle me concerne aussi, elle vous concerne à chaque... Et nous avons tous à nous examiner devant la face de Dieu. Mais ici, il est écrit réellement, Matthieu 5, verset 29, « Et quiconque dit à son frère idiot sera puni par le haut conseil. » Un jugement très, très grave. Et vous savez ce que le même Seigneur a dit? Il a utilisé la même parole de sa bouche. Il a prononcé la même parole. Lisons dans Luc chapitre 12. Nous parlons aujourd'hui des soi-disant contradictions dans les Saintes Écritures. Dans Luc chapitre 12, verset 20. Vous pouvez tous le lire. Selon les traductions, ici nous est dit de quoi il s'agit. Luc 12, verset 20. Mais Dieu lui dit, tu es un idiot. Cette nuit même, on réclamera ton âme. Le Seigneur, ici, nous donne l'instruction de ne pas désigner un frère d'idiot bien d'insensé. Et de ne dire à personne, toi insensé, toi idiot, parce que la condamnation suit. Et ici, lui-même, n'est-ce pas, il dit, lui-même, tu es un idiot. Cette nuit même, on réclamera ton âme alors à qui? Lui-même, il utilise cette expression. Ici, où est la différence? Avez-vous compris de quoi il s'agit? Où est la différence? L'un est un frère en Christ, un qui a reçu la grâce de Dieu, un homme à qui tout a été pardonné et que personne n'a le droit de lui donner encore une facture et de l'accuser. Et si quelqu'un vient et accuse un frère en Christ et lui exprime une telle formulation, ou bien l'utilise en relation avec lui, en se référant à lui, alors il annule pour ce frère ce qui s'est passé pour lui à Golgotha. Alors, nous ne voyons plus le frère en Christ comme Dieu le voit, c'est-à-dire par Golgotha, c'est-à-dire comme complètement, totalement racheté, délivré, et qui a reçu la grâce de Dieu. Ici, il y a un incroyant qui ne peut rien être d'autre que ce qu'il est, et qui a laissé passer et laisse passer l'offre de grâce de Dieu sans l'accepter. Ce n'est pas le frère qui est un idiot. Il ne peut pas être un idiot et un insensé. Il est un homme intelligent parce qu'il a accepté la grâce de Dieu. Mais l'incroyant est un idiot, est un insensé qui n'a pas accepté la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez la différence? Dieu a le droit d'utiliser ces expressions et de dire à un incroyant. Peut-être qu'un incroyant pourra peut-être lire cela et remuer la tête et dire, mais comment est-ce que cela est possible? Ici, le Seigneur lui-même dit de ne pas parler comme ça et lui-même, il le fait. Non, tout a son contexte, à sa place et à sa justification. Et nous, comme croyants, particulièrement pour la fin des temps, il nous est dit dans Jacques, au chapitre 5, au verset 6, un rappel à l'ordre particulier nous est donné pour notre marche que nous avons à recevoir dans notre cœur. Jacques, chapitre 5, à partir du verset 7, il est écrit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jacques 5, verset 7. « Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne soupirez pas les uns contre les autres, frères. Je pourrais ici m'arrêter ici et lire Romains 8, où Paul écrit que toute la création soupire et que nous aussi, qui avons l'esprit comme prémisse, nous soupirons de la même manière dans notre cœur et attendons la manifestation des fils de Dieu. Mais ici, il y a deux sortes de soupirs qui montent ici au ciel. L'un soupir lié avec l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ, que enfin toute la création soit délivrée de la corruptibilité et que les enfants de Dieu soient glorifiés et rencontrent le Seigneur dans les airs. Et cet autre soupir ici est dans le contexte, comme il est écrit, ne soupirez pas les uns contre les autres. Frères, ça, c'est une grande différence éloignée, comme le ciel est éloigné de la terre, que nous soupirons parce que nous avons quelque chose contre un frère et que nous n'en finissons pas. Ou bien alors, est-ce que nous soupirons parce que nous désirons que, enfin, la rédemption de notre corps ait lieu et que toute la création en prenne part. Quelle sorte de soupir est en toi et en moi? Je dirais que des soupirs selon Romains 8. Amen. C'était pas assez fort. Ou bien selon Jacques 5. Quelle sorte de soupir est en vous? Ou bien alors sont en vous? Faites attention. N'est-ce pas? Que ce ne soit pas des soupirs, comme c'est écrit ici dans Jacques chapitre 5, qu'ils ont écrit. Ne soupirez pas les uns contre les autres, frères de peur, mais un soupir que l'Esprit de Dieu a mis en nous, par lequel ce désir est exprimé. Seigneur, quand est-ce que tu reviendras? Seigneur, quand est-ce que tu viens? Reviens bientôt pour nous prendre auprès de toi, pour que nous puissions en finir avec tout cela. Pas Seigneur, qu'est-ce que tu règles le compte de ce frère? Quand est-ce que tu le saisis? Et quand est-ce que tu lui fais arrêter ce qu'il fait et règle son compte, ou bien mettre de l'ordre. Oublions cela. Nous voulons nous-mêmes mettre de l'ordre dans notre vie, entre nous et Dieu. Alors, le monde entier sera en ordre si chacun est en ordre avec Dieu et ne s'occupe de personne. Alors, moi, j'ai la grande foi que les uns avec les autres aussi, nous serons en ordre et en accord si chacun est en ordre avec Dieu. Cela commence avec chacun individuellement, avec Dieu, que chacun soit apporté en ordre avec Dieu, que lui-même, il mette sa vie en ordre avec Dieu. Je vous dis que si nous tous qui sommes ici rassemblés aujourd'hui et tous ceux qui nomment le nom du Seigneur et croient sa parole révélée, si tous se mettent en ordre, se laissent apporter en ordre avec Dieu, alors il y a l'ordre divin, il y aura l'ordre divin dans toute l'Église qui sera restauré. Nous avons déjà dit auparavant que ce n'est pas seulement que l'ordre divin, mais aussi l'ordre des hommes, n'est-ce pas, a été renversé sur la terre, sur la tête, pardon. Mais il y a une Église qui est appelée à sortir. Et de cette Église, de nouveau, elle sera ramenée dans l'état qui existait devant Dieu, dans l'Église primitive. Et à cela, je veux appartenir, que cela coûte ce que ça coûte. la fin, le message de la fin des temps a été apporté pour mettre de l'ordre, l'ordre divin dans la maison de Dieu, pour créer l'ordre divin dans la maison de Dieu, ramener, rétablir. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit que nous sommes la maison de Dieu. Hébreux 3, verset 6. Donc, il faut que dans la maison de Dieu, en nous, donc que nous sommes la maison de Dieu, nous, donc l'ordre de Dieu doit être rétabli et créé en nous. Alors, pour toi et pour moi, l'ordre, le monde est en ordre, la politique est en ordre, tout est en ordre alors. Si tu es en ordre avec Dieu, alors il s'agira seulement d'une seule chose pour toi. C'est d'avoir la relation avec Dieu, de l'alimenter, de vivre avec lui, pour lui, et d'être à ta disposition, et d'être béni par lui, et d'être une bénédiction, pour pouvoir être ainsi une bénédiction ensuite pour les autres. Combien dans leur cœur peuvent dire Amen, oui, à cette parole de Dieu que nous avons observé. Amen. Amen. Nous la croyons. Nous l'avons entendue. Nous l'avons reçue. Nous l'avons écoutée. Et il nous sera fait comme Dieu l'a dit. Nous expérimenterons. Nous vivrons ce qu'il nous a promis. Il n'y a aucune contradiction dans la parole de Dieu. Tout est en ordre. Pour ceux qui sont en ordre avec Dieu, qui me l'accordent, qu'il te l'accorde, qu'il puisse nous accorder tout cela et nous accorder à tous sa paix, à sa paix. Amen, amen. Nous levons pour la prière. Père céleste, aucun de nous voudrait chanter ou bien jubilé de joie. Nous nous examinons tout sérieusement devant ta sainte face pour voir dans quel état nous sommes réellement en face de cette parole. Nous te remercions ensemble pour les comparaisons dans les saintes écritures. Qui pour la compréhension des incroyants semble être une contradiction. Mais ce qu'on trouvait grâce devant toi, c'est une harmonie entière à chaque fois dans le contexte bien précis apporté en lumière. Ô bien-aimé Seigneur, comment est-ce que nous pouvons te dire merci pour cette compréhension? Comment nous pouvons exprimer notre reconnaissance de ce que tu nous as fait grâce de comprendre ces choses? Qui sommes-nous pour que tu parles avec nous ainsi comme un ami parle à son ami? Est-ce que tu parles avec nous? Qui sommes-nous pour que ton esprit nous vivifie ta parole? Et c'est justement maintenant, dans ces moments, que profondément dans notre âme tu agis. Nous ressentons que ta parole est plus tranchante d'une épée qu'une épée à deux tranchants. Elle l'a pénétré jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Et elle a créé en nous, dans notre vie, elle a apporté dans notre vie une décision divine que nous avons pu prendre par ta grâce. Nous voici, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, rassemblés devant ta face, tel que nous sommes. Personne peut changer sa grandeur, ajouter une mesure à sa taille. Personne est capable dans sa vie de changer quelque chose, de faire quelque chose différemment. Nous sommes dépendants de toi. Nous sommes depuis le ventre de notre mère dépendants de toi jusqu'à ce jour. Tu nous as porté avec plein de patience. Et malgré tout, nous ressentons que après tout cet enseignement, très peu de vie divine a été manifestée. Et nous avons, Seigneur, ensemble cette demande que la parole qui a été semée par toutes ces prédications, que cette semence soit abreuvée arrosé par ton esprit et que en nous, cela porte du fruit. Le même grain de blé qui est tombé au sol a porté du fruit. Seigneur fidèle, et que ce fruit soit manifesté en nous. Nous sommes nés de toi selon l'esprit et nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Nous sommes encore dans ce corps de chair et nous avons beaucoup de difficultés. Nous te demandons, Seigneur, mais nous te demandons que l'esprit ait le contrôle pour que la chair soit soumise à, et que ton esprit puisse nous oindre et nous utiliser puissamment et nous revêtir de la puissance d'en haut pour les devoirs divers, pour les différents devoirs. Oh Seigneur, que la parole que nous avons écoutée ne puisse pas revenir à vide, sans effet, mais qu'elle puisse exécuter ta volonté dans notre vie et produire l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Nous te croyons et nous te faisons confiance. Tu nous as attirés, tu nous as parlé, tu as touché notre cœur, nous avons compris ta parole, compris ce que tu nous as dit et nos cœurs brûlent encore parce que tu as parlé avec nous. Seigneur fidèle, que tu puisses laisser luire ta face sur nous et accorde-nous ta paix et que ta grâce et ta bénédiction soient avec nous tous dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu.